Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 5, Chien contre Cancrelat. Vers 10h30, la cloche fêlée de la petite église commença à sonner, et les gens se réunirent pour entendre le sermon du matin. Les élèves de l'école du dimanche se disséminèrent dans l'église et occupèrent les bancs aux côtés de leurs parents qui tenaient à les garder sous leur coupe. Tante Polly s'installa. Tom, Sid et Mary s'assirent près d'elle, Tom étant placé près de l'allée, le plus loin possible de la fenêtre ouverte et des distractions que l'été lui offrait à profusion. Peu à peu, toutes les places furent occupées par les notabilités de l'endroit. Le vieux et nécessiteux receveur des postes, le maire, car entre autres inutilités, il y avait un maire, et sa femme, l'avoué Riversum, nouveau venu, qui habitait dans le voisinage, ensuite la belle du village, suivie d'une troupe de godelurons endimanchés. Puis, groupés, tous les jeunes employés de bureau de la ville. Admirateurs pommadés et minaudants qui, en suçant le pommeau de leur canne, avaient attendu, sous le péristyle, que la dernière jeune fille ait affronté le feu de leur regard. Et enfin, l'enfant modèle, Willy Mufferson, qui prenait autant de soin de sa mère que si elle eût été faite de cristal taillé. Il conduisait toujours sa mère à l'église, et toutes les mères de famille le citaient en exemple. Aussi était-il détesté par tous les garçons. Il était si parfait, et on leur en avait si souvent rebattu les oreilles. Son mouchoir blanc pendait hors de la poche arrière de sa jaquette, négligence étudiée à laquelle il s'astreignait tous les dimanches. Tom, lui, n'avait pas de mouchoir et traitait de poseur ceux qui en portaient un. La cloche sonna encore une fois l'appel des retardataires. Puis, dans l'église, un silence solennel régna, qui n'était troublé que par les chuchotements des choristes dans la tribune. Les choristes ne faisaient que rire et chuchoter pendant tout le service. Il était, une fois, un chœur d'église dont les membres n'étaient pas mal élevés. Mais où se trouvait-il? Je l'ai oublié. Il y a longtemps de cela, et je ne peux guère me rappeler quoi que ce soit à ce sujet. Mais je crois que c'était à l'étranger. Le pasteur indiqua le cantique et en donna lecture avec ce ton de voix particulier qui faisait l'admiration de toute la région. Il commença sur une note médiane et monta jusqu'à un certain ton pour s'y maintenir. Donner toute sa puissance sur la note la plus élevée et retomber comme d'un tremplin. Serais-je emporté vers les cieux par les chemins aisés de la facilité? Alors que d'autres combattent pour remporter le prix et font voile sur les mers tachées de sang? On le considérait comme un lecteur merveilleux. Aux réunions paroissiales, c'est toujours à lui qu'on faisait appel pour lire des vers. Les auditrices, en extase, levaient les mains qu'elles laissaient ensuite retomber sur leurs genoux et hochaient la tête comme pour dire « Il est impossible d'exprimer ce que nous éprouvons, c'est une émotion supraterrestre. » L'hymne, une fois chanté, le révérend M. Sprague se transforma en un bulletin de nouvelles. Il donna sur les réunions, les fêtes, les événements de la localité, des détails dont l'énumération semblait devoir durer jusqu'au jugement dernier. Étrange habitude qui persiste en Amérique même à notre époque, où la presse est si développée. Il semble que moins une coutume se justifie, plus elle soit dure à déraciner. Puis le pasteur pria. Il pria beaucoup, et pour beaucoup de monde, pour l'église, pour les enfants de l'église, pour les autres églises du village, pour le comté, pour l'État, pour les représentants de l'État, pour les États-Unis, pour les églises des États-Unis, pour le Congrès, pour le président, pour les ministres, pour les marins voguant sur les mers lointaines, pour les millions d'opprimés gémissant sous la botte des monarques européens et des despotes orientaux, pour ceux qui ont des yeux et ne voient point, Pour ceux qui ont des oreilles et n'entendent point, pour les infidèles et les païens disséminés aux quatre coins du monde. Le pasteur termina en exprimant le vœu que ses prières soient exaucées et que ses paroles tombent comme le bon grain dans la bonne terre afin d'y porter leurs fruits. Ainsi soit-il. Il y eut un froissement de robe et les fidèles s'assirent. L'enfant dont nous racontons l'histoire n'avait guère apprécié ce sermon. Il l'avait supporté non sans une certaine agitation. Les détails de cette prière, il les savait par cœur. Et si le pasteur y apportait la moindre modification, il le remarquait aussitôt et s'en indignait comme d'une déloyauté. Pendant la prière, une mouche était venue se poser sur le dossier du banc devant lui. Elle se mettait les pattes sur la tête et la frottait si vigoureusement qu'il semblait qu'elle allait la détacher de son corps. Avec ses pattes de derrière, elle se nettoyait les ailes et les rabattait le long du corps comme les pans d'un habit. Elle faisait sa toilette avec le sentiment qu'elle était en parfaite sécurité. Ce qui était d'ailleurs bien le cas. Non que les mains de Tom ne lui démangeassent du désir de l'attraper, mais parce qu'il croyait fermement attirer sur lui la colère divine s'il bougeait avant que la prière fût terminée. À la dernière phrase, sa main esquissait déjà un mouvement. Et dès que le mot « Amen » eut été prononcé, la mouche était faite prisonnière. Mais sa tante l'avait vu faire et l'obligea à libérer le malheureux insecte. Le pasteur énonça le texte de son sermon et en entreprit d'une voix monotone un commentaire si filandreux que bien des assistants commencèrent à dodeliner de la tête. Et cependant, il s'agissait du feu éternel, auquel les élus devaient échapper en si petit nombre que ce n'était guère la peine de les sauver. Tom compta le nombre de pages lues par le pasteur. Une fois le service fini, il savait toujours combien il y avait eu de pages, mais c'était là tout ce qu'on pouvait lui demander. Le pasteur fit un émouvant tableau du rassemblement de toutes les nations du monde, à l'occasion duquel on verrait un lion et un agneau conduits ensemble par un tout petit enfant. Mais, pour notre gamin, la morale de l'histoire resta lettre morte. Il ne pensa qu'au rôle glorieux du personnage principal, devant les nations assemblées, et se dit qu'il voudrait bien être cet enfant. À condition toutefois que le lion fût apprivoisé. Le commentaire sombra à nouveau dans la monotonie, et la pensée de Tom se reporta sur un trésor qu'il avait en sa possession. Il le sortit de sa poche. C'était un énorme cancrelat, aux mandibules formidables, un cafard à pince, comme il disait. Il le tenait emprisonné dans une boîte à amorces. La première chose que fit l'insecte fut de lui pincer le doigt. La réaction de Tom fut de lui donner une chiquenaude. Le cancrelat, projeté en l'air, atterrit sur le dos et Tom suça son doigt meurtri. Incapable de se redresser, le cancrelat se débattait. Tom le regardait et mourait d'envie d'aller le ramasser, mais il était trop loin. D'autres personnes que le sermon n'intéressait pas consacrèrent leur attention à ce spectacle. Survint un caniche errant en quête d'aventure. Il paraissait mélancolique. La température clémente et le calme de l'été l'incitaient à la paresse. Las de la captivité, il cherchait autre chose. Apercevant le cancrelat, il remua la queue, examina la proie convoitée, en fit le tour, la renifla prudemment à distance, continua à tourner autour, puis s'enhardissant, la renifla de plus près, avança la lèvre et exécuta une attaque hardie, la manquant de peu. Recommença une fois, puis une autre. Se piqua au jeu, se coucha sur le ventre avec le cafard entre les pattes et continua ses expériences. Puis soudain, il parut se désintéresser de la question. Rapprocha la tête du sol, et quand elle fut à la portée du cafard, celui-ci le mordit au menton. Le chien aboya et d'un coup de tête envoya promener le cafard qui, une fois de plus, tomba sur le dos. Les spectateurs les plus rapprochés firent entendre des rires étouffés. Des dames se cachèrent le visage derrière leur éventail. Des messieurs derrière leur mouchoir. Tom exultait. Le chien avait l'air tout penaud. Et peut-être s'en rendait-il compte car, animé d'un désir de revanche, il rejoignit le cafard avec toutes les précautions d'une stratégie circonspecte, tournant autour, bondissant vers lui de temps à autre, avançant une patte prudente, découvrant ses dents, secouant la tête et faisant claquer ses oreilles. Puis, une fois encore, il abandonna la partie, s'occupa d'une mouche qui ne suffit pas à l'intéresser. Le museau à ras de terre, il poursuivit une fourmi qu'il abandonna bientôt, bâilla, soupira, si bien qu'il oublia tout à fait le cafard et finit par s'asseoir dessus. Un cri de douleur troubla la cérémonie. Le chien se précipita vers l'autel en hurlant. Parcourut l'église dans sa largeur, redescendit par une nef latérale. Plus il allait, plus il s'affolait, si bien que l'on eût dit une sorte de comète laineuse parcourant son orbite à une vitesse inaccoutumée. La malheureuse bête finit par sauter sur les genoux de son maître qui s'en débarrassa en la jetant par la fenêtre. Bientôt, les hurlements cessèrent de se faire entendre. Tous les fidèles étaient cramoisis à force de rire contenu, si bien que le malheureux pasteur avait dû interrompre son sermon. Il le reprit en l'abrégeant, mais dut renoncer à tout espoir de monopoliser l'attention de son auditoire. Ses déclarations les plus graves étaient accueillies par les rires étouffés des assistants qui se cachaient derrière les bancs comme si le malheureux pasteur avait raconté des histoires du plus haut comique. Quand l'épreuve fut terminée et que la bénédiction fut donnée, ce fut un soulagement pour tous. Retournant chez sa tante, Tom Sawyer était d'excellente humeur, se disant qu'après tout, un service religieux célébré dans ces conditions n'était pas ennuyeux du tout. Une seule ombre au tableau. Il voulait bien que le chien joue avec son cafard. Mais qu'il l'emporte, cela n'était pas de jeu.